France Inter.
Aujourd'hui, les super pouvoirs des mitochondries racontés par
Laurent Chevalier, médecin nutritionniste, président de l'association Objectif Nutrition Santé.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Pendant longtemps, on a cru que le cœur de notre vitalité se jouait surtout dans nos gènes, dans ce grand livre de l'hérédité qu'est l'ADN. Et pourtant, au cœur même de chacune de nos cellules se cache une autre histoire plus discrète, mais absolument décisive, celle des mitochondries. Ce sont de minuscules structures invisibles à l'œil nu, mais sans lesquelles aucun de nos gestes ne serait possible. Pas un battement de cœur, pas une pensée, pas même un pas dans la rue. On les surnomme souvent les centrales énergétiques de nos cellules. Mais cette image est presque trop moderne. Elle ne se contente pas de produire de l'énergie, elle la transforme, la distribue, la régule et participe même au pilotage de la cellule elle-même. Le plus étonnant, c'est leur origine. Les mitochondries ne sont pas nées avec nous. Il y a plus d'un milliard d'années, elles étaient des bactéries indépendantes. Et un jour, une cellule primitive les a intégrées. Au lieu de les digérer, elle a appris à vivre avec elles, une alliance improbable, une symbiose fondatrice qui a rendu possible l'émergence des formes de vie complexes dont nous faisons partie aujourd'hui. Autrement dit, au fond de nos cellules, nous portons encore la trace vivante de cette ancienne rencontre. 10 milliards de mitochondries environ, rien que dans un corps humain, représentant près de 10% de notre masse corporelle, un véritable réseau énergétique intérieur qui travaille jour et nuit pour maintenir notre température, alimenter notre cerveau, faire battre notre cœur et nous maintenir en vie. C'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Quand vous mangez des matières grasses ou bien du sucre, tout ça se retrouve dans vos cellules. Et les cellules les transmettent aux mitochondries. Ce sont elles qui vont brûler ces matières afin de générer de l'énergie. C'est cette énergie qui vous permet ensuite de faire fonctionner vos muscles, votre cerveau et faire tout ce que vous avez à faire.
C'est dans l'air. En 2010, la voix du scientifique Rickelt Outcooper. Bonjour Laurent Chevalier.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être avec nous cet après-midi. Vous qui publiez chez Robert Laffont le pouvoir fascinant de vos mitochondries. Quand on évoque ces entités présentes dans nos cellules, on parle souvent donc de centrales énergétiques de la cellule. De quoi il s'agit exactement et où est-ce qu'on les trouve dans notre organisme ?
Alors, c'est la mitochondrie est ce qu'on appelle un organisme, c'est-à-dire un élément de la cellule. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous consommez des aliments, vous allez absorber des calories. Mais ce n'est pas une énergie qui est utilisable directement par l'organisme. Il faut qu'elles soient transformées, et elles sont transformées par les mitochondries qui vont former ce qu'on appelle l'ATP, adénosine triphosphate, qui est une source d'énergie pour la cellule. Je prends souvent l'exemple pour montrer, pour visualiser un petit peu, le pétrole. Le pétrole, la voiture a besoin de pétrole pour avancer, mais pas du pétrole brut. Il faut qu'il soit transformé, soit en diesel, soit en essence. Et bien là, c'est à peu près la même chose. Donc les aliments, il faut bien les choisir. Les aliments sont tout à fait essentiels, bien entendu. Mmh. Et c'est ces mitochondries qui vont assurer l'énergie. Et puis, effectivement, comme vous l'avez venez juste de le rappeler, la température corporelle à 37 degrés de façon constante, c'est un exploit sur le plan biologique que d'arriver à ça. Et on le doit à nos mitochondries.
Donc ce sont de toutes petites structures présentes au sein de la cellule. On dit que vraiment c'est l'usine à énergie de nos cellules. Et elles sont présentes partout dans ces
elles
cellules.
Sont présentes partout, mais à des concentrations variables. Eh bien, il y a des structures qui ont besoin de plus de mitochondries. Des structures, les cellules musculaires, surtout quand on fait une activité physique. Ouais. Donc on a un apport, on a un développement de mitochondries au niveau de la cellule. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est sur le plan cérébral. C'est-à-dire que des baisses de mémoire, des baisses de concentration, des troubles de ce type-là peuvent être liés un peu à des dysfonctionnements des mitochondries. Ouais. Et de plus en plus, on s'aperçoit que des troubles de la santé mentale peuvent être liés à un dysfonctionnement de ces mitochondries et dès le plus jeune âge. La grande histoire, c'est que heureusement, c'est quelque chose qui peut être réversible si on a une alimentation adaptée.
On y reviendra évidemment abondamment sur l'aspect santé et pourquoi il faut absolument prendre soin de ces mitochondries, comment le faire. Mettre à la une d'un livre, justement, en couverture d'un livre, ce mot mitochondrie, c'est assez audacieux, Laurent Chevalier, parce que c'est pas une entité qui est très connue, d'ailleurs assez bizarrement, alors que pourtant elle est essentielle. C'était une volonté de votre part aussi de réhabiliter ces mitochondries, là ?
Alors, c'est pas tellement la réhabilité, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'études scientifiques sur les mitochondries. On commence à de mieux en mieux comprendre ce qui se passe et comprendre pourquoi tout un tas de maladies peuvent être liées à ces troubles de ces mitochondries. Il y a une dizaine d'années, on a introduit le microbiote, donc les bonnes bactéries, enfin les bactéries qu'on a au niveau intestinal. Je pense que maintenant, on peut se pencher sur les mitochondries. Compte tenu de l'affluence de publications que l'on a, scientifiques, assez complexes, je me suis dit, mettons ça à la portée du public de façon la plus pédagogique possible. Et c'est pour ça que, bien, on a pris ce titre-là.
Ouais. Alors c'est vrai que le terme est évidemment familier des personnes qui ont étudié la biologie, mais pas du grand public. Hein. Donc là, on va faire connaissance avec le cœur de nos cellules.
Voilà, on va faire connaissance avec le cœur de nos cellules. Ce qu'il faut voir, c'est que dans l'histoire de la médecine, cette approche des mitochondries et cette compréhension est toute récente dans l'histoire médicale.
Même pour les scientifiques eux-mêmes, alors.
Même pour les scientifiques eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on les avait vus au microscope optique, c'est pour ça qu'on avait appelé ça des mitochondries, mitos, le grec fil, et chondros, le grain, donc c'est pour ça, mais on ne savait pas très très bien comment ça marchait. Dans les années 1970, avec le microscope électronique qui se développe, etc., on dit, tiens, c'est quelque chose d'important. Mais je dirais que la compréhension de plus en plus fine date des années 1990, donc à l'échelle de la science médicale, mais c'est extrêmement récent.
Combien de mitochondries possède approximativement le corps humain ? Alors, on calcule sur les cellules, en fait ?
Oui, on calcule, on considère qu'il y en a à peu près 10 milliards. Ce qu'il faut voir, c'est qu'elles sont en perpétuel mouvement. J'explique dans l'ouvrage, c'est qu'il faut les comparer un petit peu à des soucoupes volantes. C'est des soucoupes volantes qui sont dans la cellule et qui bougent en permanence. Et elles vont se développer, elles vont se multiplier, elles vont aussi, par des phénomènes de fission, éliminer une partie qui peut être abîmée, etc. Donc c'est quelque chose qui est vivant, mais qui est vivant 24 heures sur 24.
Ben oui,
c'est
bien sûr.
Extrêmement extraordinaire sur le plan biologique.
Ben c'est ce qui nous maintient en vie d'ailleurs. Hein.
C'est ce qui nous maintient en vie.
Donc il vaut mieux qu'elle reste vivante pour nous aussi. 10% du poids corporel, de la masse corporelle, c'est vrai ça ?
On estime que ça fait 10% de la masse corporelle.
Ou avec la cellule ?
Non, la masse mitochondriale est parallèlement à ça, donc on vit un énorme, il y en a beaucoup, ces mitochondries sont extrêmement vulnérables. Et c'est la sophistication du vivant qui est absolument, mais extraordinaire. Absolument extraordinaire.
Donc il y a une fragilité de la mitochondrie ?
Il y a une très grande fragilité de la mitochondrie.
Pourquoi d'ailleurs ?
Bien, écoutez, pour former cette adénosine triphosphate, donc ce qui permet de donner de l'énergie, l'adénosine triphosphate, très schématiquement, va se transformer en adénosine diphosphate et libérer de l'énergie. Et en fait, on a 5 complexes qui permettent d'arriver là. C'est une chaîne qu'on appelle aussi la chaîne respiratoire, parce qu'on a besoin d'oxygène pour la mitochondrie. Et il y a des éléments qui vont abîmer un de ces 5 complexes. Et parmi ces éléments, on en reparlera un petit peu, il peut y avoir par exemple des pesticides qui peuvent abîmer. Certains fongicides sont bien identifiés comme pouvant abîmer. Donc c'est une structure qui, franchement, est extrêmement importante et qu'on a un petit peu oublié.
Mais par cellule, il y a combien de mitochondries, en fait ?
Alors, c'est variable. Là où il y en a le moins, c'est dans l'os. Dans les cellules osseuses, c'est là où il y a le moins de mitochondries. On peut avoir jusqu'à 100 000 mitochondries dans une cellule.
Ah oui, quand même !
Bien sûr, au niveau du cerveau, on a besoin de beaucoup de mitochondries. Pour penser, etc. Ça, on a quelques centaines, à quelques milliers.
Donc,
c'est extrêmement variable.
C'est
en plus, dans les découvertes toutes récentes, mais absolument aussi une histoire absolument extraordinaire que j'évoque un petit peu
dans le livre,
c'est que les mitochondries peuvent migrer d'une cellule à l'autre. Et ça, c'est tout récent.
Ouais.
Ça fait même pas 10 ans qu'on commence à comprendre aussi comment... Donc, si vous voulez, quand on a besoin d'énergie, eh bien, tout va être apporté par ce biais.
Mais Laurent Chevalier, concernant justement leur présence dans les cellules, ça dépend aussi des besoins énergétiques, le nombre de mitochondries plus on en a et plus il y a une demande énergétique.
Bah, c'est-à-dire que plus on va en avoir besoin et plus effectivement elles vont se développer. Et c'est franchement une histoire extraordinaire, vous l'avez évoqué au début, c'est-à-dire que tout d'un coup, une cellule, la pré-cellule eucaryote, qu'on appelle Lucas, va absorber cette mitochondrie. Et là, tout d'un coup, effectivement, c'est la cellule qui ne peut pas très bien se développer. La mitochondrie va lui apporter de l'énergie. Tu m'apportes de l'énergie et moi, je te nourris.
Alors justement, elles ne fournissent que de l'énergie ou elles ont un autre rôle aussi au sein de la cellule ?
Elles ont énormément de rôles. Et parmi les rôles essentiels qu'il y a, eh bien, c'est elles qui décident si la cellule doit continuer à vivre ou pas vivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que, par exemple, sur le développement des cellules cancéreuses, tous les jours, on fait des cellules cancéreuses au niveau de l'organisme. Si on a les mitochondries qui sont performantes, elles vont décider que la cellule doit être détruite. Et parfois, si justement elles ne sont pas performantes, mais il y a un phénomène d'échappement et les cellules cancéreuses vont pouvoir se développer. Ouais.
Donc, normalement, elles nous protègent, mais elles peuvent aussi jouer un rôle délétère.
Non. C'est-à-dire que si elles sont abîmées, à ce moment-là, certaines cellules malsaines vont pouvoir se développer. Et d'ailleurs, dans les réflexions qu'il y a, et même aujourd'hui dans les médicaments, on se demande s'il ne faut pas restaurer cette fonction mitochondriale pour empêcher le développement de certains cancers.
Donc, attention, justement, à en prendre soin, pour que
les rôles ne s'inversent pas. D'en prendre soin. Donc, en fait, elle gouverne ce qu'on appelle l'apoptose, c'est-à-dire la mort des cellules, la mort... Alors, il y a un vieillissement naturel, mais en même temps, plus on en prend soin, moins on va vieillir. Il y a vieillissement qui est aussi programmé sur le plan génétique. Mais il y a énormément d'éléments délétères au niveau de la cellule. Et quand la cellule est trop abîmée, elle ne correspond pas à ce que attend l'organisme, eh bien, elle est détruite grâce aux mitochondries.
Est-ce qu'on peut dire que ce sont des sortes de thermostats biologiques aussi, au fond, de notre corps humain ?
Oui, elles fournissent cette chaleur dont on a besoin. Après ça, on a d'autres mécanismes, la thyroïde, etc., qui va agir aussi pour réguler. Mais effectivement, c'est thermostat. Et ce qu'il faut voir aussi, ce qu'on ignore et ce qu'on a compris depuis relativement peu de temps, c'est qu'à l'intérieur de la mitochondrie, la chaleur est de 50 degrés. Ensuite, ça va diffuser, donc on va rester à 37 degrés. Mais on imagine à 50 degrés les dégâts que ça peut faire aussi. Donc il y a formation aussi d'éléments un peu indésirables qu'on appelle les radicaux libres et qu'il faut arriver à neutraliser grâce à l'alimentation.
Ouais. Tous les animaux en possèdent ?
Tous les animaux en possèdent. Et alors par contre, il y a des différences évidemment. Donc pour les homéothermes que sont les mammifères et les oiseaux, donc on a un système très performant. On en a un peu moins, mais il y en a quand même par exemple chez les reptiles et les tortues. Mais la thermorégulation ne se fait pas. C'est pour ça que tout d'un coup, eh bien, ils hibernent. Ils n'arrivent pas à contrôler leur chaleur. Mais c'est tout à fait essentiel chez l'homme.
À quoi ça ressemble physiquement alors une mitochondrie quand on pose son œil sur un microscope ?
Alors ça ressemble à une structure un petit peu oblongue, on l'a schématisé sur la couverture un petit peu du livre, mais un peu oblongue, il y a deux membranes, une membrane externe et une membrane interne, et il y a tout un tas de réactions qui vont avoir lieu à ce niveau-là, et notamment au niveau de ce qu'on appelle les crêtes. Donc c'est une forme un petit peu oblongue.
Ouais. Et est-ce qu'il y a des cellules humaines qui n'en possèdent pas d'ailleurs des mitochondries ou pas ?
Alors on a les globules rouges qui n'en possèdent pas.
Pourquoi ? Parce que leur rôle c'est de transporter l'oxygène sans en consommer en fait, c'est
exactement,
ça ?
C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre des éléments dont les cellules ont besoin et la diffusion de l'oxygène et ensuite du gaz carbonique qui va revenir au niveau du poumon, ça a lieu de façon passive.
Ouais, donc ça optimise l'efficacité de
ça optimise tout à fait
de ces globules
l'efficacité.
Laurent Chevalier, on va voir dans un instant. On va revenir sur l'histoire des mitochondries dans l'histoire du vivant parce que c'est intéressant leur origine qui est quand même une des plus étonnantes de l'évolution. Et puis nous attendons bien sûr amis auditrices et auditeurs vos messages, vos réactions sur la page de La Terre au Carré et sur nos réseaux sociaux et puis vos messages vocaux sur l'application Radio France.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Il y a près de 2 milliards d'années, quand la seule forme de vie sur Terre était unicellulaire, une bactérie en aurait ingéré une autre. Mais cette fois, la bactérie engloutie n'a pas été digérée. Elle a survécu dans l'organisme de l'autre et en est devenue une partie intégrante. Cette bactérie d'un genre nouveau était dotée d'un super pouvoir, Elles produisaient de l'énergie en utilisant l'oxygène. Il y a des mitochondries dans chacune des cellules de toutes les formes de vie multicellulaires présentes sur Terre.
Elle s'appelle Mae Jemison, elle est ingénieure et astronaute et nous recevons cet après-midi Laurent Chevalier, vous qui publiez chez Robert Laffont le pouvoir fascinant de vos mitochondries pour activer nos cellules et améliorer notre vitalité et notre santé. Alors justement, revenons un peu sur l'histoire des mitochondries parce qu'elles commencent bien avant l'apparition de l'être humain. Qu'est-ce qu'on sait exactement de leur origine? Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure.
Alors, contrairement à ce qui a été dit, c'est pas une bactérie qui a absorbé une autre bactérie. Aujourd'hui, on considère que c'est la pré-cellule eucaryote, LUCA, Last Universal Common Ancestor, qui a absorbé cette structure. Alors, pourquoi on en est arrivé à cette conclusion? On en arrive à cette conclusion parce que, d'une part, cette bactérie qui va donc se transforme en mitochondrie, on va trouver des éléments communs avec les bactéries. Et puis, cette mitochondrie, elle va avoir un ADN. Comme les bactéries.
Un ADN propre.
Un ADN propre. Ouais. Et quand on a l'ADN, enfin cet ADN mitochondrial qui ressemble, qui est un petit peu différent, si vous voulez, de l'ADN nucléaire. L'ADN nucléaire, il est en pelote. C'est-à-dire qu'il est très concentré, il y a plein de gènes. Mais on a aussi un ADN au niveau de la mitochondrie, mais c'est une espèce de filament. Et donc, du coup, il est un peu plus vulnérable. Et on peut avoir des mutations au niveau de ces gènes qui vont provoquer des maladies mitochondriales génétiques.
Ouais. Et donc, les scientifiques, maintenant, sont persuadés, savent qu'effectivement, ces mitochondries descendent d'anciennes bactéries. Hein. Vraiment, voilà, se passe vraiment aux origines de la vie. Hein.
C'est ça. Disons qu'aujourd'hui, il y a un consensus scientifique pour l'analyser de cette façon-là. Mmh. On s'est beaucoup, beaucoup posé de questions. Et on a été quand même très très surpris de cela. Mais le consensus est dans cette hypothèse.
Il y a une grande théorie qui explique l'apparition des mitochondries donc, et un nom qui est donné à cette théorie, c'est celle de l'endosymbiose. C'est ça, c'est le nom.
Et donc après ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, eh bien, ils ont travaillé effectivement en symbiose. Tu m'apportes l'énergie, je te nourris, etc. Il y a énormément de relations qui ont eu lieu.
Alors justement, qu'est-ce qu'elle a gagné vraiment la cellule primitive à accueillir en son sein une bactérie au lieu de la détruire finalement?
Mais la bactérie, la possibilité de se développer, de créer des organismes complexes, d'avoir de l'énergie. Si on n'avait pas de mitochondries, aller simplement faire ses courses, on s'est complètement essoufflé.
Ouais.
Donc on aurait un tout petit peu d'ATP par la glycolyse, mais c'est l'essentiel de l'ATP est fourni par la mitochondrie. Et donc c'est ce qui nous permet. Il faut quand même voir une chose, c'est que on a le cœur qui bat. Combien on expulse de sang par minute? 5 litres de sang par minute pour le cœur. Eh bien, si on n'avait pas les mitochondries, on ne pourrait pas faire cela. Et d'ailleurs, si on se place sur le plan médical, lorsqu'il y a une insuffisance cardiaque, c'est-à-dire que le cœur pompe un peu moins, eh bien, il faut penser aux mitochondries, il faut arriver à soutenir un petit peu ces mitochondries pour que le cœur batte mieux.
Et Laurent Chevalier, à l'inverse, qu'est-ce qu'elle gagne, cette mitochondrie, à être hébergée par cette bactérie, justement, par
nos cellules ? Elle va être nourrie. Ouais. Elle va être nourrie. Et c'est quelque chose, vous savez, la science est quelque chose qui est absolument fabuleux. Et on comprend de mieux en mieux, disons que la science permet de décortiquer ce vivant, de comprendre comment ça fonctionne. Et là, on a fait des avancées majeures. Et une hypothèse que j'aimais, dans le livre, c'est que peut-être que dans les 15 ans qui viennent, la classification des maladies va changer justement en fonction de l'impact et du dysfonctionnement qu'il peut y avoir au niveau des mitochondries.
En tout cas, cette alliance donc entre ces bactéries ancestrales, ça a complètement révolutionné l'évolution du vivant, hein, tout simplement. Hein.
Voilà, c'est-à-dire que le vivant tel que l'on connaît chez les mammifères, chez les oiseaux, c'est grâce aux mitochondries. Et à un moment donné, aussi, vous savez, au niveau de l'espèce humaine, il y a une période de très grande glaciation, il y a à peu près 1 million d'années, et dans les analyses qui sont faites, dans les projections qui sont faites, on a des fossiles avant 1 million d'années, et on a des fossiles après, et puis on a pendant 250 000 ans, un espèce de trou, un goulot d'étranglement, et on considère, dans les perspectives qui sont données, dans les différents types d'algorithmes, etc., qu'il y avait à un moment donné sur Terre que 1300 individus. Et à cette période de glaciation phénoménale, c'est peut-être les mitochondries qui ont sauvé l'humanité. Parce qu'il faut voir aussi, c'est que ces mitochondries, elles utilisent de l'oxygène, mais elles produisent aussi de l'eau. C'est l'eau métabolique. Quand on a besoin de boissons, on a besoin de boissons pour vivre, pour la cellule, etc. Donc c'est l'eau de boisson, c'est l'eau qu'on va trouver dans les fruits et légumes, mais aussi on a un petit peu d'eau métabolique. Et parce que vous imaginez, par de glaciation, vous ne pouvez pas vous amuser à sucer des glaçons en permanence, etc. Et donc, c'est une hypothèse que l'on peut émettre, c'est que les mitochondries ont sauvé l'humanité et ont sauvé l'espèce humaine.
Donc on a ces petites réserves en nous qui sont très précieuses, effectivement, et qui nous permettent aujourd'hui de nous déplacer, par exemple, de penser. Tout ça, c'est l'histoire de cette symbiose, en fait.
C'est l'histoire de cette symbiose. Et si on a un cerveau qui s'est développé comme il s'est développé, et s'il fonctionne, c'est grâce aux mitochondries, c'est-à-dire la mémoire, la concentration, etc. Et à l'inverse, qu'est-ce qui se passe ? C'est que si les mitochondries sont abîmées, et si la chaîne de formation de cette ATP, de cette énergie, est altérée, mais qu'est-ce qu'on a ? On est fatigué. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont fatigués. Alors, il y a des causes, parce qu'on ne dort pas assez, parce qu'il peut y avoir un peu de stress, parce qu'il peut y avoir différents éléments, mais on oublie trop souvent que l'altération des mitochondries entraîne moins de formation d'ATP, et quand vous avez moins de formation d'ATP, et bien vous êtes fatigué. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs un peu chez les personnes âgées aussi. Et donc, penser à ces mitochondries, c'est quelque chose d'essentiel.
Laurent Chevalier, on va écouter l'extrait d'un documentaire de France 5, c'était en 2003, avec des recherches menées sur l'ADN de l'abeille.
Il y a une autre sorte d'ADN dont je ne vous ai pas parlé.
Je vous écoute.
Cet ADN est transmis uniquement par la mère. C'est l'ADN des mitochondries. Des organites situés dans la cellule autour du noyau. À partir de deux méthodes, le polymorphisme de restriction et le séquençage d'ADN, on étudie la variabilité de cet ADN des mitochondries. Les méthodes de reconstruction phylogénétique nous permettent de retrouver l'ordre chronologique des mutations, de reconstituer l'histoire évolutive de l'espèce.
Donc là, Laurent Chevalier, on a bien entendu, l'ADN mitochondrial est transmis uniquement par la mère.
Absolument. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que il y a quand le spermatozoïde va rencontrer l'ovocyte, il va y avoir un petit peu de mitochondries. Pas beaucoup, parce que l'essentiel des mitochondries sont au niveau du flagelle pour que le spermatozoïde puisse bouger. Et ensuite, quand l'œuf est constitué, toutes les mitochondries d'origine, enfin du père, sont détruites. Alors on s'est posé beaucoup de questions, comment ça se fait qu'elles sont détruites. Et finalement, l'interprétation que l'on a, et qui paraît la plus plausible, c'est que, en fait, l'ADN de la mitochondrie va agir avec l'ADN du noyau. Et donc, en fait, il va y avoir des interactions. Et des interactions à deux, c'est possible, et des interactions à trois, là, ça devient très compliqué. Et c'est comme ça qu'on interprète le fait que les mitochondries d'origine paternelle sont détruites. Et là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une interaction permanente entre le noyau qui va fabriquer un certain nombre de protéines qui vont servir à la mitochondrie, et avoir une interaction. Mais ça a des conséquences aussi sur, par exemple, je donne l'exemple dans le livre, des performances sportives.
Oui.
C'est-à-dire que vous regardez sur le plan génétique, il faut regarder plutôt du côté de la mère. Si la mère est très performante dans la course à pied, les enfants, le garçon ou la fille, ont des chances, ont des risques de l'être par rapport au père où c'est moins flagrant. Bon, il y a des éléments aussi, bien entendu. Et en même temps, bien entendu, pour être performant, il faut une activité physique, il faut un entraînement, il faut une bonne alimentation, etc. Mais c'est tout à fait étonnant. Et vous savez que les éleveurs de chevaux, ils regardent la jument plus que les talons. À cause de ça, justement, ils savent très bien, ou ils subodorent, qu'il y a quand même une histoire de ce côté-là, et c'est cet ADN mitochondrial.
Avec un héritage particulier.
Avec un héritage particulier. Alors, il y a moins de gènes au niveau de l'ADN de la mitochondrie qu'au niveau du noyau, bien entendu, mais c'est un élément dont il faut tenir compte.
Donc vous nous racontiez, là, il y a un instant, que les mitochondries ont joué un rôle dans la survie de l'humanité au cours de son histoire, en permettant donc aux hominines de survivre à des périodes glaciaires extrêmes. Il y a le rôle du tissu adipeux brun dans cette survie, c'est ça ?
Voilà. Donc le tissu adipeux brun contient beaucoup de mitochondries. Et pour bien fixer les idées, quand un nourrisson naît à terme, eh bien, il a une température, lui aussi, corporelle, ouais, constante, à 37 degrés, et on peut le mettre dans un berceau.
Ouais.
Donc, le tissu adipeux brun est bien développé, il a beaucoup de mitochondries, et c'est possible. Par contre, s'il est prématuré, le tissu adipeux brun n'est pas encore développé, il n'a pas encore suffisamment de mitochondries, et on est obligé de le mettre en couveuse, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental. Ensuite, ce tissu adipeux brun, il va avoir tendance à beaucoup se réduire à l'âge adulte. Il y a des relais qui sont pris de mm-hmm. façon différente, mais il est possible de le stimuler, et le froid va le stimuler. Donc le froid chronique, pas le froid comme on l'a aujourd'hui, etc., mais le froid chronique, c'est-à-dire que dans le Grand Nord canadien, eh bien, les personnes, les adultes, ont plus de tissu adipeux brun qu'un Français. Et puis il y a des expériences qui ont été faites sur les nageurs.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on les faisait nager en eau froide, et on s'est aperçu qu'il développait le tissu adipeux.
C'est ça. Ça, c'est des recommandations que vous ferez tout à l'heure. Hein. Le froid, par exemple, hein, peut nous aider à protéger, à prendre soin de nos mitochondries. On va voir dans un instant, justement, ce que ces petites centrales énergétiques deviennent avec nos modes de vie modernes. Hein. Est-ce qu'elles racontent de la santé, de nos fragilités, et puis des pistes pour l'avenir. On va discuter de tout ça ensemble, Laurent Chevalier, dans quelques instants, et bien sûr à l'appui des messages et des questions de nos auditeurs et auditrices qui arrivent en ce moment sur la page de la Terre au Carré. À tout de suite.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au carré.
Dans les sous-sols de l'Institut des neurosciences, les chercheurs viennent de faire un énorme bond en avant grâce à leur nouveau jouet, un microscope multiphoton. Ce microscope permet d'observer le système nerveux d'une souris.
Donc grâce à ce microscope, on a pu voir les mitochondries en 3D, en trois dimensions, et on a pu voir au cours du temps que, en fait, ça c'est une sorte de petits vers, au lieu d'être petits points, c'est des petits vers qui bougent dans leur environnement. Après, on sait que dans d'autres cellules, les mitochondries bougent aussi, mais c'est la première fois qu'on le voyait dans ces cellules-là. Donc ces cellules-là nous intéressent particulièrement parce que c'est des cellules qui sont impliquées dans de nombreuses maladies humaines. Et donc on pense que les mitochondries ont un rôle dans le déclenchement de ces maladies.
Il s'appelle Nicolas Tricot sur France 3 en 2014. Il est chercheur à l'INSERM. Laurent Chevalier avec ce livre, Le pouvoir fascinant de vos mitochondries. C'est chez Robert Laffont. Et c'est vrai que ces mitochondries sont aujourd'hui au cœur d'énormément de questions de santé.
Absolument. Et on s'aperçoit que, par exemple, dans les troubles neurodégénératifs, que ce soit la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, les troubles cognitifs, on incrimine de plus en plus un mauvais fonctionnement des mitochondries. En termes de santé mentale, de dépression, de stress, d'anxiété, là aussi, on incrimine de plus en plus des mitochondries qui dysfonctionnent. À telle enseigne que je cite d'ailleurs une chercheuse canadienne, qui dit, finalement, on donne des antidépresseurs, on donne des anxiolytiques, etc. Ça marche pas très très bien. Est-ce qu'on devrait pas commencer par se poser la question de savoir si les mitochondries fonctionnent correctement ou pas correctement?
Alors, ok, sauf que quels signes, justement, peuvent alerter sur un mauvais fonctionnement mitochondrial au quotidien?
Il y a, il y a un certain nombre de facteurs. C'est-à-dire qu'effectivement, une fatigue chronique, des troubles, justement, là aussi...
Vous parlez de la concentration.
Anxieux, de troubles de la concentration, etc. Aujourd'hui, bon, la science, elle évolue. Aujourd'hui, on n'a pas de marqueurs biologiques spécifiques.
Mmh.
On a des marqueurs de dysfonctionnement, par exemple au niveau du foie. Quand le foie fonctionne pas très bien ou que les mitochondries peuvent ne pas très bien fonctionner au niveau du foie, on va avoir une augmentation, par exemple, de ce qu'on appelle les transaminases, les gamma-GT. On peut doser aussi ce qu'on appelle le lactase, etc. Donc il y a quelques éléments, il y a des pistes qui vont nous dire un peu par organe ce qui fonctionne pas forcément très très bien. Mais aussi, je dirais que une simple enquête alimentaire va permettre de nous donner des orientations. Alors, je vais vous donner juste un exemple, celui du magnésium. Aujourd'hui, on considère que plus de 70% des hommes et des femmes en France n'ont pas un apport suffisant en magnésium. Le magnésium, les besoins sont estimés à 300 mg par jour. Et cet apport n'est pas apporté. Parce qu'on consomme moins de légumineuses, on consomme moins d'oléagineux, etc. Or, le magnésium est essentiel aux fonctions de la mitochondrie. Alors, il y a d'autres éléments, mais disons, le magnésium est tout à fait... Donc, d'où l'intérêt, parfois, d'avoir une alimentation, bien entendu, plus riche en légumineuses, etc. Et d'où l'intérêt, parfois, de se supplémenter. Mais un magnésium qui soit assimilable. C'est le bisglycinate qui est bien assimilable. Ensuite, on a d'autres éléments, comme le coenzyme Q10. Alors, le coenzyme Q10, il est fabriqué par l'organisme. Mais quand on avance en âge, on en fabrique un peu moins. Et là aussi, le coenzyme Q10 est essentiel à la au bon fonctionnement des mitochondries. Donc là aussi, et éventuellement, on peut se supplémenter. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on peut doser ce coenzyme Q10, mais ce n'est pas de pratique courante et ce n'est pas remboursé. On va le faire, par exemple, dans les maladies mitochondriales d'origine génétique. Mais à terme, eh bien, on verra, on va pouvoir affiner un petit peu tout ça. Et puis, il y a deux éléments aussi qui sont extrêmement importants. C'est d'avoir un apport en vitamine C et en vitamine E, suffisant. Donc, le meilleur exemple qu'on puisse avoir au niveau des fruits et légumes, c'est le kiwi, parce qu'il va apporter beaucoup de vitamine C. Et dans les petits grains noirs, on a la vitamine E. Mmh. C'est la combinaison des deux qui permet de protéger la mitochondrie. Et puis...
On prendra du kiwi fabriqué, cultivé en France, hein, plutôt que de le faire venir de Nouvelle-Zélande. Ce sera mieux pour la planète.
Absolument. Hein. C'est beaucoup mieux pour la planète. On en a en Europe... On en cultive, effectivement. Et puis, on a besoin des polyphénols. Et les polyphénols, c'est des structures que l'on a dans les fruits et légumes, et notamment les fruits colorés. Et on s'est aperçu qu'il y en avait un d'entre eux qui avait un rôle vraiment de plus en plus important, c'est la fécétine. La fécétine, on va le trouver... C'est là où il est le plus en plus forte concentration, c'est dans la fraise, mais on en a aussi dans la pomme. Et en fait, ces polyphénols, ils vont agir de deux manières. Ils vont agir... un peu directement, mais surtout, ils vont stimuler notre propre système de protection. Les protections qu'on appelle antioxydants. Comme je vous ai dit, la mitochondrie, elle est soumise quand même à cette forte chaleur. Il y a des éléments qui se dégradent un peu. Ce qu'on appelle, la formation, ce qu'on appelle des radicaux libres, il faut les neutraliser. Mmh. Et ça, c'est vraiment important. Et on peut les neutraliser par ce biais-là.
Ouais, vous dites, hein, vous rappelez à quel point les mitochondries sont particulièrement sensibles à notre environnement moderne aujourd'hui. Hein.
Ah oui. Alors là, évidemment, on a, si on veut schématiser, on a d'une part certains pesticides, et notamment les SDHI, des fongicides qui posent des problèmes. On a beaucoup de littérature là-dessus qui est sortie. Mm-hmm. Et ce qui est tout à fait stupéfiant, ce que je dénonce à deux reprises dans le livre, c'est qu'aujourd'hui, quand vous mettez un produit sur le marché, un produit chimique sur le marché, c'est certains fongicides, mais d'autres types de pesticides aussi, le glyphosate, la chlordécone, bon, la chlordécone maintenant est interdite, on ne demande pas de regarder la toxicité mitochondriale. C'est quand même très très surprenant. Donc on a cet aspect-là, donc là on a une solution, c'est de consommer le plus possible en bio. Ensuite,
Ça devrait être absolument obligatoire justement.
Ah ben, je crois que c'est franchement... Et là je dirais que c'est nos auditeurs qui doivent
donc
avoir
cette
démarche.
Donc il faut faire pression, tout simplement, peut-être pour
Oui, mais après ça, c'est le consommateur qui a le choix. Je veux dire, on donne les éléments pour expliquer pourquoi consommer du bio, c'est mieux pour sa santé, c'est mieux pour la planète. Donc après ça, on fait des choix. Je veux dire, si...
Quand on a les moyens de pouvoir les faire aussi. Hein.
Écoutez, là, Mathieu, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. J'interviens très souvent sur le fait qu'on peut consommer de façon... Enfin, on peut manger à petit prix, sainement. Il y a des choix à faire, pas prendre des produits forcément très lointains. Il y a tout un tas d'éléments, éviter les sodas, etc. Ensuite, le deuxième grand axe, c'est quand même l'éthanol. C'est-à-dire que les boissons alcoolisées ont tendance à augmenter, quand on en prend trop, la formation de radicaux libres. Et puis, on a quand même cette grande interrogation, je pense, qui va être plus ou moins résolue dans les années qui viennent, c'est qu'il y a beaucoup de médicaments qui altèrent aussi les mitochondries. Mmh. Et pour donner un exemple, les statines, c'est ce qu'on donne contre le cholestérol. Eh bien, ces statines, en fait, vous savez qu'on a un tiers du cholestérol sanguin qui est d'origine alimentaire, et les deux tiers qui est fabriqué. Eh bien, en fait, il y a une enzyme qu'on arrive à bloquer, l'HMG coréductase, mais cette enzyme qu'on arrive à bloquer par la voie médicamenteuse pour les statines bloque aussi la formation du coenzyme Q10, et donc ça altère la mitochondrie. Il faudrait arriver à coupler les deux.
Allez, on va passer aux questions des auditeurs. Une question intéressante de Victoria qui demande est-ce qu'on observe des différences au niveau des mitochondries selon le continent où l'on vit, Laurent Chevalier ?
Alors, les mitochondries fonctionnent de la même manière partout, et je voudrais délivrer un message d'universalité. Voilà. Quels que soient les peuples, on fonctionne, la cellule, elle fonctionne de la même manière, et quel que soit
United,
le continent.
Donc United Mitochondrie, en fait.
Exactement, ah, United Mitochondrie, exactement.
Bon, après, ça dépend évidemment de la façon dont on se nourrit, donc là, ça devient plus culturel, et ça,
et
aussi,
puis,
sur le mode de vie.
Le degré d'activité physique aussi est assez important.
Peut-on voir si nos mitochondries sont en bonne santé dans une simple prise de sang, demande Sophie.
Alors, pour l'instant, on n'a pas tous les marqueurs, on a par organe, mais on n'a pas tous les marqueurs, on n'a pas un élément spécifique, c'est un faisceau de présomption par la prise de sang, où on va voir un petit peu ce qu'il y a.
Que nous conseillez-vous, demande à nouveau Sophie, comme alimentation pour garder ses mitochondries en bonne santé? Est-ce qu'il est imaginable qu'un traitement anticancéreux soit basé sur les mitochondries?
Alors, un traitement anticancéreux, c'est-à-dire qu'on essaye, la cellule cancéreuse ne fonctionne pas du tout de la même manière sur le plan énergétique, pas du tout de la même manière. S'il y a un message à faire passer de protection des mitochondries, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est beaucoup, beaucoup de végétaux. Alors, je ne dis pas qu'il faut mettre les protéines animales de côté, parce que par exemple, pour le coenzyme Q10, un des meilleurs aliments pour aider à la fabrication du coenzyme Q10, c'est la sardine, alors qui contient en plus des oméga-3. Mais l'alimentation végétale est essentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'alimentation qu'on doit avoir, c'est une alimentation extrêmement végétale, avec un peu de protéines animales, et ce qu'il faudrait, alors ça paraît un peu contre-productif, mais c'est réduire le plus possible les féculents. C'est-à-dire le riz, les pâtes, etc. Et ça fournit en plus énormément de molécules de glucose. Une molécule d'amidon fournit à peu près 1000 molécules de glucose. Et l'excès de glucose, comme l'excès de gras, engorge la mitochondrie.
Vous parlez de protéines animales, Laurent Chevalier. On peut les remplacer aussi par les protéines végétales?
Alors, on peut remplacer en partie par les protéines végétales, bien entendu, mais disons qu'on a on peut avoir un meilleur équilibre nutritionnel avec des protéines d'origine animale, du poisson, un petit peu de viande, un peu des œufs, un peu de fromage. Le problème, c'est qu'on en a pris en excès. Donc, quand on prend en excès des protéines animales, on a tendance, entre guillemets, à acidifier un peu le corps.
On va écouter un message vocal pour vous qui est arrivé sur l'application Radio France.
Quel est l'effet du jeûne sur les mitochondries, s'il vous plaît?
Alors,
quelle est votre réponse à ça?
Il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Moi, je crois que, si vous voulez, l'histoire du jeûne, c'est mettre le corps au repos pendant 12 à 14 heures. C'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée. Par contre, le moment où il faut le faire, là, c'est beaucoup plus discutable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sautent le petit déjeuner. Je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne idée de sauter le petit déjeuner. Pourquoi? Parce que les réparations cellulaires ont lieu la nuit. Donc, comme les réparations cellulaires ont lieu la nuit et qu'on n'a pas un stock de protéines, on a un stock un peu de sucre par le glycogène, ensuite la néoglucogénèse, on a un stock de gras. Donc, un apport en protéines le matin au petit déjeuner, pour moi, ça a du sens et ça peut être intéressant. Donc, finalement, on ne saute pas le petit déjeuner. Par contre, on fait un repas du soir pas trop tardif et pas trop copieux.
Laurent Chevalier, merci beaucoup. Je renvoie sur votre ouvrage, ça s'appelle « Le pouvoir fascinant de vos mitochondries ». C'est chez Robert Laffont. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à Joël Levert qui a préparé ce dossier aujourd'hui. Selim Guéribi à la technique, Lucie Sarfati pour la coordination de l'émission et Jérôme Boulet qui réalisait aujourd'hui cette Terre au carré. On parlera écologie et BD demain dans le cadre de la journée spéciale bande dessinée sur France Inter.